Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein ? Ça, on joue pas aux petits chevaux, là. Là, c'est la cour des grands, là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser. Cette dernière main a failli me tuer.
C'est un sort, Will !
Je sais pas quoi faire !
Balance-lui une boule de feu,
que je fasse au minimum 13 !
Non, c'est trop risqué !
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joies ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer.
Bonjour, bonjour, bonjour Prune, bonjour public, bonjour à mon papa et ma maman qui m'écoutent. Bonjour mes coéquipiers, j'ai nommé Cyrielle.
Bonjour à tous.
Antoine.
Bonjour.
Gildwen.
Bonjour.
Brian.
Bonjour.
Et sans oublier Azilise à la technique.
Bonjour.
Alors, on se retrouve pour la 4e édition du Club des Platistes qui explore le monde des jeux de société. Et cette édition, nous l'avons baptisée « Les jeux en grand ». On l'a écrit en majuscule. Alors que veut-on dire par là, les jeux en grand ? Le jeu en grand est-il un jeu XXL, géant, pour les gens qui ont des grosses mains ou une très mauvaise vue ? Le jeu en grand est-il un jeu pour plein de personnes, pour les soirées où on n'a rien à se dire ? C'est un peu tout ça finalement, parce que ça se joue souvent en groupe et ça demande des infrastructures exceptionnelles. Et je ne parle pas des grosses mains quand je dis ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les jeux grandeur nature, de rôle ou non. Ces jeux-là sont souvent à la croisée des mondes entre théâtre, enquête policière et aventure médiévale, fonctionnant en huis clos. Mais ils peuvent aussi être ancrés dans une réalité bien loin du jeu de société, celle de l'entreprise par exemple. Et bien souvent donc, ils demandent des moyens assez inédits. Avant de vous présenter les personnes qui en parleront le mieux, je fais place à la célèbre, la très attendue, par nous tout du moins, énigme du jour proposée par Azilise.
Alors, puisque Brian était sur le marché tout à l'heure, on va faire une énigme qui se passe sur la place du marché. Je suis désolée, dans cette énigme, il n'y a que des mecs. J'aurais pu la changer, puis je ne l'ai pas changée.
Pas très inclusif.
Il y a un poissonnier. Il y a le poissonnier blanc, c'est son nom de famille. Le charcutier noir, c'est aussi son nom de famille. Et le boucher roux, c'est aussi son nom de famille. Ils sont en train de ranger, à la fin du marché. Il y a l'un d'eux qui dit « Mes cheveux, à moi, sont noirs. Les vôtres sont respectivement roux et blancs, mais pour aucun de nous, la couleur de nos cheveux ne correspond à la couleur de notre nom. » Et à ce moment-là, il y a Blanc qui répond « C'est vrai. » Alors, de quelle couleur sont les cheveux du boucher ? Brian ?
J'ai pas pris de notes.
Ah ouais, fallait trop prendre des notes.
Ouais, là, fallait prendre des notes.
Ah ouais. On a eu une heure pour réfléchir.
Ouais, je vous redis rapidement, les noms.
Ouais, vas-y.
Il y a le poissonnier blanc, le charcutier noir. Je vois que Gildwan prend des notes.
Ah non, à chaque fois, il gagne en plus.
Ouais.
Le boucher roux. Et c'est l'un d'eux, mais on ne sait pas lequel, qui dit « Mes cheveux sont noirs. Les vôtres sont respectivement roux et blancs. Pour aucun de nous, la couleur de nos cheveux ne correspond à la couleur de notre nom. » Et attention, c'est important. À la fin, Blanc répond « C'est vrai. »
Okay.
Laisse méditer là-dessus.
Merci Azilise, de quoi faire chauffer nos neurones. Autant vous dire que les miens sont déjà au max de leur capacité avec la pression de faire l'animation. Donc aux potes l'occasion de briller. Sans quoi j'aurais bien sûr trouvé la réponse. Hein.
Évidemment.
Évidemment. D'ailleurs, c'est ton moment, Gildwan, de briller. L'heure est venue de nous raconter, s'il te plaît, ton expérience personnelle en camp de jeu de rôle grandeur nature.
Eh bien, merci de me donner la parole. Dans les précédentes émissions, nous avons beaucoup parlé de jeux de plateau, auquel on joue installé confortablement en confiant notre destin à des pions ou à des cartes. Mais certains joueurs préfèrent jouer grandeur nature. Je ne vous parle pas de la partie d'échecs dans Harry Potter, mais vraiment de jeux dans lesquels chacun incarne son propre personnage. J'ai eu l'occasion de participer à ce genre d'aventure sur des week-ends prolongés. Au départ, je me suis dit, il faut un costume, mais après on fait quoi ? Lors de l'inscription, on indique l'équipage qu'on intègre pour que les organisateurs sachent avec qui on vient. Puis on a un certain nombre de points de compétences à attribuer à son personnage dans différents domaines. La première fois, j'ai commis une erreur. J'étais un héritier d'une riche famille. Pour apporter de l'or à mon équipage, mais je ne savais pas lire. Je m'étais donné un minimum de force pour ne pas mourir au premier courant d'air et quelques compétences techniques. La deuxième année, grâce aux points bonus obtenus, j'ai pu réparer cette erreur et rendre un peu de cohérence à mon personnage. En effet, si le personnage ne sait pas lire et trouve un document de jeu, les maîtres du jeu ne nous donnent qu'un document blanc, tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui a la bonne capacité. Pareil pour les repas. Le joueur est nourri tous les jours, mais il présente une carte à chaque repas, qui est validée ou non selon s'il présente un ticket repas ou pas, ou s'il se risque avec des tickets mentionnant des rations d'origine inconnue. Ne pas manger ou multiplier la nourriture inconnue peut avoir des conséquences sur son personnage. Je me rappelle que je devais construire une radio, mais il fallait rencontrer la bonne personne parmi des centaines d'inconnus. Et cette quête m'a permis l'année suivante de trouver une alliance dans un lieu qui se trouvait dans un ancien fort dans l'est de la France. Le cadre était très bien trouvé, car il renforçait l'imaginaire et surtout le long couloir desservant les lieux des repas, boutiques des marchands et refuges des principales civilisations était propice aux embuscades. Mais pour mieux vous parler des jeux Grandeur Nature, je vais laisser la parole à une organisatrice de l'association Monde Parallèle que Cyrielle et Azilis ont rencontré lors des Utopiales.
Bonjour, nous sommes Monde Parallèle. Nous sommes une association de jeux Grandeur Nature basée à Rezé et nous organisons des jeux depuis une vingtaine d'années, à peu près. On fait du petit format, portable, en ludothèque, en médiathèque, parfois dans votre salon, ou du grand format, 120-150 joueurs, 3 jours, dans un château. Voilà. On fait un peu tout entre les deux. Le principe du jeu Grandeur Nature, c'est que chaque joueuse, via son personnage, est le héros ou l'héroïne de l'aventure que l'on met à sa disposition. Nous, en tant qu'organisateurs, pour un événement, pour un gros événement, ça nous prend à peu près 2 ans de conception et développement. Se renseigner sur la période, si on fait une période qui est plausible, sinon on crée un univers, ça demande beaucoup de travail aussi. On va réfléchir à un scénario, qu'est-ce qui est intéressant à vivre, quelles sont les possibilités que les joueurs, enfin, dont les personnages vont s'emparer. On va réfléchir à la logistique, trouver un lieu qui va être sympa pour nous accueillir, réserver une cuisine, vérifier l'accès aux commodités. Et tout ça, ça va nous donner un montant de participation aux frais qui sera réparti entre tous les joueuses et les joueurs. Un scénario peut être joué une seule fois, ça se faisait beaucoup pendant un moment. On essaie de le refaire plusieurs fois quand on réussit à avoir accès au lieu, parfois plusieurs fois de manière consécutive. Donc, chaque personnage est interprété par une joueuse ou un joueur. Quand nous, on a notre idée de jeu Grandeur Nature, on dit, padam, d'ici un an et demi, on va organiser un jeu qui va se dérouler dans Ambiance Cthulhu pour 120 joueurs dans un château en Touraine. Si ça vous intéresse, remplissez le formulaire d'expression d'intérêt. Dans le formulaire, on va obtenir qui est la personne qui s'inscrit et ce qu'elle aura envie de jouer. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien jouer quelqu'un qui est extrêmement cartésien et qui dit non, ça sent le poisson, mais c'est normal, c'est vendredi. Alors qu'il y a les grands anciens qui sont en train d'apparaître en derrière. Ou ça va être non, je vais être un enquêteur avec des petits problèmes d'alcool, avec quelques casseroles, parce que c'est intéressant de jouer des personnages qui ont des failles, tout de suite ça les enrichit énormément. Chacun va trouver son plaisir et pour nous c'est vraiment important de réussir à comprendre ce que les joueurs et les joueuses ont envie de jouer et de les appairer avec nos archétypes de personnages, les personnages qu'on aura développés pendant toute notre phase de conception et développement de l'histoire. Parce qu'une personne qui arrive sur un jeu en se disant « Waouh, j'ai un super costume années 20, j'ai des petites plumes, j'ai des paillettes dans les yeux, j'ai appris à danser Charleston parce que ça m'amusait de le faire », et bien là ce soir, ça va être une enquêtrice qui va se retrouver au milieu d'un truc, mais elle sait pas quoi, mais c'est juste que ça va être terrifiant, ça va être trop cool d'être terrifiant, parce que c'est qu'un jeu, et on s'amuse, on joue à avoir peur. En fait. Donc pour nous, le fait que les joueuses et les joueurs arrivent en se disant « on va bien s'amuser », ça va bien se passer, on va jouer ensemble et on va tous jouer ensemble. On peut avoir entre deux personnages des arcs dramatiques qui s'opposent. Imaginez, pour un Agatha Christie, le meurtrier ne souhaite pas être découvert, le policier souhaite découvrir le meurtrier. Donc nous, en tant qu'organisateurs, nous on est là pour garantir le cadre. Donc on est en 1920 avec Toulouse, on est dans un château, donc voilà, Ne faites pas n'importe quoi, ne courez pas dans les escaliers parce que ce sont de véritables escaliers, ce sont de véritables chevilles et ce sont les vôtres en plus. Ce serait dommage qu'il vous arrive quoi que ce soit. Dormez bien, hydratez-vous bien. On a des gens qui sont là 24 heures sur 24 pour vérifier, vous donner quelque chose à manger, vous donner quelque chose à boire parce que vous pouvez complètement être pris par le jeu et oublier les nécessités de base. Ça peut arriver. Nous, de notre côté, dans notre scénario, on sait qu'il peut y avoir plusieurs pistes vers lesquelles les joueuses et les joueurs peuvent s'engager. On peut avoir prévu des événements sur cette durée-là. Mais souvent, on se fait surprendre parce que les joueuses et les joueurs, tous ensemble, sont plus que la somme des personnages qu'on a mis à leur disposition. Et donc, ils vont s'emparer de notre univers et nous proposer des fins alternatives auxquelles on n'aurait jamais réfléchi. Et nous, à ce moment-là, on est vraiment là pour aider la concrétisation de la création fictionnelle de nos joueuses et nos joueurs.
Les personnes qui font appel à vous, c'est beaucoup des particuliers, des entreprises, des familles. Vous avez quel type de personnes qui fait appel à vous ?
Alors souvent, on est nos premiers clients. On se dit « Hey, ce serait cool de monter un projet comme ça, donc on y va tout seul. » Chez Monde Parallèle, on a une sorte de bibliothèque, un catalogue d'animation qu'on peut proposer aux ludothèques, aux médiathèques, parfois par des particuliers. On est souvent contacté par des particuliers, mais ça se transforme assez rarement vraiment en prestations chez des privés. C'est plutôt les organisations publiques qui vont nous faire appel à nous pour des animations.
Et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous avez sur un site, les réseaux sociaux, comment on connaît vos événements ?
Eh bien, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de Monde Parallèle. On a aussi un lien Discord, donc vous pouvez passer sur notre lien Discord, je ne l'ai pas du tout en tête et en plus ça c'est pas le très mal à la radio, mais voilà, donc on a aussi un lien Discord, vous pouvez nous contacter par là et puis on vous rajoutera, on a une newsletter aussi régulièrement qui donne des petites nouvelles soit de notre association, soit d'associations copines ou parce qu'on entend parler qu'il y a des organisations et que si nous on ne propose rien ou si nous on ne propose rien qui vous fait vibrer à un instant T, bah, peut-être qu'il y a d'autres assos qui font des trucs incroyablement chouettes avec qui vous aurez plaisir à jouer, donc allez-y, allez jouer.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
Merci Gildouen, merci Monde Parallèle, c'est top d'avoir ce retour et celui de personnes dans les coulisses de ce type d'expérience. Je suis ravie de pouvoir continuer avec Brian qui va poursuivre l'idée que le jeu Grandeur Nature sont des jeux où on se donne à 100%. Tu vas nous parler en effet de l'histoire des escape games.
La petite histoire.
En effet, moi je vais vous parler de l'histoire des escape games, aussi apparemment appelés jeux d'évasion d'après Wikipédia. Alors ça doit être la traduction française, moi j'en ai jamais entendu parler comme ça. Donc ce qu'on appelle le premier jeu d'évasion connu est un jeu vidéo du japonais Toshimitsu Tagaki, qui crée en 2005 des jeux tels que Crimson Room et Cupid Shot. Crimson Room, c'est un jeu vidéo datant de 2005, jouable facilement en ligne. C'est un jeu très court, mettons 3 minutes si on connaît les astuces. Si vous faites comme moi, vous en aurez pour 3 quarts d'heure avec une vidéo solution à côté. C'est assez galère, c'est voilà, des vieux graphismes, un peu de jeux vidéo. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, un lit, un placard, une porte. Et pourtant, ça suffit pour bien vous faire galérer. On se réveille dans une chambre, donc fermée, et il faut se débrouiller avec les éléments de la chambre pour s'en sortir façon point and click, un peu comme les jeux Monkey Island ou Runaway. Je ne sais pas si vous avez pu y jouer. La première société à créer un escape game qui dure et qui est professionnel et qui n'est pas un jeu vidéo, c'est Scrap, qui ouvre son premier jeu à Kyoto en 2008 sous le nom de The Real Escape Game. Ce type de jeu est ensuite pratiqué partout en Asie, et notamment à Hong Kong. Il devient un phénomène mondial après 2010, après entre autres les ouvertures de Parapark en 2011 en Hongrie et de Int Hunt en 2012 à Londres. Int Hunt, c'est aussi la première salle en France qui s'ouvre en 2013, à Paris. Et puis, petit à petit, les décors deviennent de plus en plus immersifs et recoupent l'univers de la cinématographie. L'escape game continue de se réinventer. La dernière tendance est l'intervention d'acteurs en cours de jeu ou l'implantation de scénarios dans des lieux atypiques ou chargés d'histoire. Il me semble que près de Nantes, ça doit être le Bignon. C'est une salle avec des acteurs. Je ne l'ai pas encore faite, mais en tout cas, moi, j'ai entendu des super shows sur ces salles. En 2016, une enseigne de jeux d'évasion ouvrait tous les 3 jours en moyenne en France. Et c'est en octobre 2016, le plus grand escape game de France qui s'ouvre à Nantes. Escape Hunt Game, c'est une salle de 1800 m2, ouverte principalement dans l'idée d'accueillir des entreprises et de faire des team building. Vous savez ce que font certaines entreprises pour resserrer les liens de leurs employés sur des temps d'un week-end? Avant, on allait au bar sans le patron, mais c'est sa manière à lui de se faire inviter aux événements, puisque c'est lui qui paye. Pour le coup, moi je n'ai jamais fait d'escape game avec mon boulot. Il n'y a sans doute pas assez d'argent dans le social. Nous on continue les bonnes traditions, on va au bar. La difficulté, réussir à s'échapper avant la fermeture. Sinon c'est perdu, c'est sûr que ce sera gueule de bois demain. Et oui, c'est la nouvelle mode. Les escape games sont aussi bien envahis par des bandes d'amis, des familles, ainsi que par ton patron qui te crie « Vite, vite, la clé Karim, sinon tu peux dire au revoir à ta prime. » Ou « Si on rate à cause de Pierre, pour demain c'est lui qui fait le stagiaire. » En 2017, c'est l'arrivée des Unlock, ces boîtes de jeux qui reproduisent les mécanismes d'un escape game publié par Space Cowboy et distribué par Asmodée, une édition française de jeux. L'Unlock, c'est aussi le jeu de l'année. Il gagne le prix de l'As d'Or au Festival des Jeux de Cannes en 2017. Et arrive 2020. Patatras, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le Covid. Le Covid.
Ah oui, non, pas entendu parler.
J'ai oublié.
Avons-nous pour la première fois en France quelque chose qui est accepté socialement comme non-binaire? Oh, et puis finalement, Yael sera non-binaire dans le gouvernement.
Qu'il est drôle.
Donc, Covid arrive et c'est le début des fermetures des escape games. Pourtant, tout le monde veut s'échapper de chez soi. Sortie de confinement, plus personne ne veut s'amuser à s'enfermer, ça s'entend. En 2020, pourtant, il ne reste pas moins de 800 anciennes d'escape games en France.
Génial, merci Brian. Et sur une demande de toi-même d'ailleurs, qu'est-ce que c'est beau comme transition, mesdames et messieurs, Song for a Jedi de Dionysos.
J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait, mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
Parce que c'est l'heure de s'y croire à fond, de s'inventer Jedi, elf, agent de secret, ou bien victime de meurtre. C'est un peu plus bizarre. Et c'est peut-être le cas de la sœur d'Antoine, Mathilde, qui va nous parler de son métier d'actrice en Murder Party dans l'enregistrement que son frangin a fait d'elle. À vous!
Nous sommes le 12 février 2023, ce soir, la Radio Prune organise un bal pour ses bénévoles. Azilis, fondatrice du Club des Platistes, a invité ses protégés, Gildwen, Annelise, Brian, Cyrielle et Antoine. Seront également présents les membres des autres émissions de cette radio, par exemple Louis, Morgan, Axel de Langue de Prune. Il y aura aussi des DJ, des fêtards et bien sûr des invités surprises. Dominique A, le chanteur de Trente Mous, et Renaud Séchant, l'ancien chanteur qui vient de s'installer à Trente Mous. Ce soir, un crime sera commis. Renaud sera assassiné avec un mot accroché à son veston. Renaud prend ta retraite. Chacun est suspect. Il faudra pourtant bien trouver le coupable, car sinon, tout le monde finira au poste. Voilà un exemple d'un pitch d'une murder party. Une murder party, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle qui se joue dans quelques pièces d'une maison, d'un manoir, d'un château. Ça dure souvent le temps d'une soirée et c'est quasiment toujours une enquête policière. Après, c'est comme n'importe quelle soirée, on essaye de soigner la déco, les déguisements et les dialogues. Chaque personne dans une murder party reçoit en amont une fiche personnage avec ses caractéristiques psychologiques et son rôle dans la soirée. Au milieu des personnages, il y a souvent des comédiens qui permettent de dérouler la trame de l'histoire. Chacun en sait plus ou moins sur l'histoire, mais il n'y a que l'organisatrice qui connaît tout. Pour les autres, c'est comme un puzzle. On essaye d'assembler les pièces petit à petit et forcément de trouver les indices pour démasquer le ou la coupable. Certains datent les murder parties dans les années 30, dans des luxueux hôtels anglais, avec comme inspiration des romans de Conan Doyle ou d'Agatha Christie. Au début, c'est donc un truc de riche. Puis, petit à petit, ça se démocratise, comme on dit. Attention, ça vous coûtera plus cher quand même qu'une soirée bière et jeux de société dans les bars nantais. Selon la prestation, le repas, les boissons, la durée, ça peut aller en moyenne de 30 à 80 euros. Par personne et pour la soirée. Mais rien ne vous empêche, ceci étant, de piquer un scénario sur Internet. Il y en a plein qui traînent et de faire ça entre vous, chez vous. Si vous avez la flemme de regrouper tout le monde dans votre cuisine, sachez qu'on trouve aujourd'hui des murder parties un peu partout, un peu tout le temps. C'est d'ailleurs très utilisé par les entreprises pour faire leur fameux team building. Et alors, en cette période de manifestation, si vous voulez tuer votre patron, n'hésitez plus, inscrivez-le à une murder party. J'ai interrogé donc ma frangine Mathilde, chanteuse lyrique, qui intervient de temps en temps dans les murder parties organisées par l'association Nantes Escape Game. Elle joue le rôle d'une diva et je lui ai demandé de nous raconter comment ça se passe.
Alors, cette murder party s'appelait Requiem pour une diva. Et donc, le scénario, c'est l'histoire d'une diva d'opéra, donc Maria von Glott, qui, après quelques années d'absence, annonce son retour à la scène à tout son cercle d'amis. Et donc, elle invite des convives pour une soirée récitale dans laquelle elle va chanter pour annoncer justement qu'elle reprend, ses rôles, elle retourne sur scène. Donc, parmi les convives, on peut trouver des hommes et des femmes politiques. Ça se passe dans les années 30, entre deux guerres. Et il y a aussi ses copines chanteuses, mais aussi rivales. Et donc, pendant cette soirée, Maria chante quelques airs d'opéra et en plein milieu, à la fin d'un des airs plutôt, elle tombe morte. Donc, elle se fait... il s'agirait d'un meurtre et l'histoire commence... La soirée commence à ce moment-là. Un inspecteur va venir et tous les convives doivent enquêter sur cette meurtre. Tous les personnages, tous les convives ont un rôle. Ils ont leur propre histoire à eux, donc c'est-à-dire leur trait de caractère, mais aussi ce qu'ils cachent et ce qu'ils montrent. Et ils jouent ce rôle-là. Et en plus de ça, ils doivent participer à l'enquête pour trouver le meurtrier ou la meurtrière. Ça dure toute une soirée. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est une soirée conviviale, quoi. C'est une soirée, il y a des petits fours, il y a des champagnes. C'est une soirée... d'invités de, avec un petit peu comme les soirées chez l'ambassadeur, on va dire. Et donc, voilà, chacun joue son propre rôle. C'est un peu du théâtre d'impro, mais dans lequel il faut se cacher derrière un personnage. Je dirais, il y en a qui sont à fond, qui jouent vraiment leur personnage hyper bien et jusqu'au bout. D'autres, dès le début... Ils jouent qu'à moitié, ils se mettent un peu en retrait ou ils vont juste derrière le bar. Et puis il y en a, c'est par vague. Des fois ils sont à fond, puis des fois ils s'extraient un peu. On sent que souvent c'est des fois des gens qui se connaissent, des amis ou des collègues, et on sent des fois qu'ils s'observent un peu différemment, surtout quand c'est des collègues. Il faut deux pièces pour pouvoir aussi. Il y a des indices. En fait, dans la murder, il y a aussi des petits indices concrets, une clé, un coffre, des petites choses qu'on distille pour faire avancer l'enquête aussi. Il y a un inspecteur qui peut être un peu maître de cérémonie, donc qui est dans un personnage d'inspecteur. Quand il sent que ça patine, il peut rajouter des indices et orienter un petit peu le jeu. Donc, il peut distiller quelques informations à l'oreille d'un des convives ou d'un des personnages pour faire avancer l'histoire, enfin l'enquête plutôt.
Retrouvez le Club des Platistes en podcast sur prune.net.
Trop cool Antoine, merci à vous deux. C'est vrai que la grande différence entre le jeu de société classique et celui grandeur nature, c'est les ressources qu'il demande. Ressources là notamment, on l'a vu, eh bien humaines. On l'a déjà entendu avec les parties des gars, on le devine, les jeux en grand demandent de grands moyens. Azilis, je demande le jingle, c'est le game.
C'est le game.
Salut. C'est encore moi. Et oui, je fais l'animation, mais aussi la partie économique, quelle classe. Et pour cette partie, nous souhaitions nous intéresser au coût d'un jeu de rôle grandeur nature, GN pour les intimes. Eh bien, sachez que j'ai eu le plus grand mal à récolter des informations. J'ai l'impression que c'est un monde qui fonctionne énormément au bénévolat. Pas si surprenant finalement, c'est souvent le cas lors d'activités ludiques qui déchaînent les passions. Je suis quand même tombée sur des manifestes de joueurs ou d'organisateurs qui expliquent pourquoi il est normal de payer pour participer à un GN, que ça soit pour une soirée ou une semaine entière de jeu. Et c'est vrai quoi, l'association ou l'entreprise à la base du GN va créer un scénario, réserver un lieu, trouver des acteurs, actrices, préparer équipement et décors, assurer la sécurité et le divertissement. Lorsqu'on s'attend à un réalisme visuel et un scénario de qualité, il faut s'attendre à payer le prix pour, ça semble logique. Et pourtant, alors après vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai été assez bluffée par les prix qui restent, je trouve, très accessibles et n'excèdent rarement les 100 euros, même pour un week-end. Comme je vous le disais, les GN semblent beaucoup fonctionner sur le volontariat et les personnages qui s'engagent à animer, et donc aussi à faire à manger par exemple, ou à incarner des personnages clés, vont avoir une ristourne importante sur le billet d'entrée. Étant une enquêtrice de terrain et ne souhaitant pas vous décevoir, j'ai même été jusqu'à me créer un compte sur un site d'inscription à des GN. J'ai dû divulguer des informations personnelles et accepter les cookies. Ça n'est pas une mince affaire. Tout ça pour lire des paragraphes où on incite acteurs et actrices à donner de leur personne car ils ont la chance de participer à une expérience unique avec des passionnés. Moi perso, ça me tend un peu les nerfs. On peut kiffer son job et être rémunéré à juste titre. Mais je tiens à rappeler que mes informations relèvent de recherches internet seulement et que je ne suis pas au cœur des associations pour les vérifier. Ça reste une impression générale d'un point de vue extérieur, n'ayant malheureusement encore jamais participé à ce type d'expérience. Pour clore cette sympathique mise en abîme économique, j'annonce que la prochaine chanson n'a aucun lien avec notre émission, mais elle fait du sens pour nous. Et non, vous ne saurez jamais pourquoi, mais oui. Quelqu'un est visé.
Je cherche un appart dans le coin pour me rapprocher de Titouan. C'est au-dessus de mes moyens, mais pour l'instant j'ai trois changements. Ça va, nos rapports s'apaisent. On se reparle avec Muriel. Je l'ai encore un peu mauvaise. C'est naturel, ça oui, je crois bien que c'est fini. Ça non, j'ai plus beaucoup de doutes. Depuis le jour où elle m'a dit je te quitte, j'en aime un autre. Ajoutant, je veux plus te voir. J'ai procédé par déduction. Je crois qu'elle voulait qu'on se sépare. Appelle ça une intuition, Titouan. rends-lui son ballon. J'arrive pas à tourner la page, Titouan, n'enlève pas tes chaussures. Eux, ils parlent déjà de mariage, Titouan, remets tes chaussures. Je me retrouve sur la touche, sonner, misérable, Titouan, mets pas ça dans ta bouche. C'est crade et c'est plein de sable. Elle est heureuse, malheureusement. Ça saute aux yeux et c'est mon drame. J'étais quoi moi, un figurant dans Titouan. Elle est pas enceinte la dame. Faudrait que j'accepte de le rencontrer. Qu'est-ce qu'elle s'imagine, franchement, que je vais l'adorer. Mettre sa photo en fond d'écran, Titouan, je te vois sur le toboggan. Oui, Titouan, je te regarde, mon grand. Je me fous si c'est un mec bien, le plus formidable des beaux-pères. Je trouve qu'on s'en passait très bien. On pourrait faire marche arrière, revenir un dimanche matin, tous les trois en famille. Elle aurait raté son entretien, Titouan. Tire pas les cheveux de la petite fille. Faudrait que je passe à autre chose. J'essaie de pas lui montrer. Ça me fait mal quand je dépose Titouan sur mon ancien palier. Je sais qu'il faut que j'abandonne. Tiens, il commence à pleuvoir. Non, moi je vois personne. On va y aller, trésor Titouan. On y va, mon trésor.
Vraiment, vraiment pas de bonnes vibes cette chanson, mais c'est pour la bonne cause. Oui, Titouan, on te regarde, mon grand. Arrêtez d'insister, vous ne saurez pas pourquoi. Par contre, vous allez tout savoir sur le job de Laurent que Cyrielle a eu l'idée géniale d'interviewer. Go découvrir les coulisses de la construction de son jeu Planning pour entreprise et de ses enjeux.
Bonjour Laurent, donc on se voit aujourd'hui pour parler d'un jeu de société que tu as créé. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît ?
Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Laurent Gachon, je suis formateur, animateur et d'événementiel. J'ai créé un petit jeu dans le cadre de certaines de mes formations.
Ok, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le jeu de société que tu as créé ?
Le jeu que j'ai créé s'inscrit dans le cadre d'une formation de management. Et le jeu s'appelle le jeu du planning. Donc l'objectif est pour des gens type chargés de projet ou des gens qui font du management de premier niveau de voir l'intérêt de la planification.
Comment on peut y jouer ? Quelles sont les règles du jeu ?
Alors le jeu, c'est un jeu qui se passe en équipe, en deux parties. La première partie est un jeu de préparation, donc le pitch il est très simple. On va assister au mariage de Eric et Vanessa. Et Eric doit rejoindre Vanessa pour la cérémonie des vœux. Donc il doit concevoir toutes les étapes, c'est-à-dire je pars de telle adresse, je vais à telle adresse, donc quels sont les différents moyens de transport que je peux utiliser, sachant qu'il n'a pas le droit d'utiliser sa propre voiture. Et une fois que les personnes ont déterminé les différentes étapes, on va donner des cartes de rôle. Donc les cartes de rôle, ça va être Eric, ça va être le témoin, ça va être la témoin de la mariée, ça va être le vendeur de bijoux, ça va être le costumier. On va distribuer des rôles à chacun. Et les gens ont le droit, à part Eric, les gens ont le droit d'intervenir uniquement une seule fois. C'est-à-dire que Eric, il va dire, ben voilà, je suis prêt, on lance le départ. Donc le jeu démarre. Mais bien sûr, il y a des petites embrouilles. C'est-à-dire que, bah, par exemple, on va poster des cartes problèmes ou des cartes aléas. Donc par exemple, on appelle ça des cartes contre-temps. Donc le contre-temps, ça peut dire, ben, j'ai pas prévu d'acheter mon billet, ben, le billet marche pas, donc ça va imputer sur le un quart d'heure par exemple de retard du busway. Et puis si le busway il est en retard d'un quart d'heure, ben, peut-être que je rate mon train. Ben, si je rate mon train, ben, ça le décale de tant de temps à la gare.
Combien de temps dure une partie du jeu, à ton avis ?
Le temps, la préparation dure à peu près 20 minutes. Donc là, c'est tout collectif. Et le jeu en lui-même va durer entre 10 et 15 minutes, parce qu'en fonction des problématiques ou des solutions qui sont trouvées.
D'accord, donc tu parles beaucoup de déplacement, mais on est d'accord que ça reste un jeu de plateau et pas un jeu grandeur nature.
Alors, c'est un jeu de plateau, c'est-à-dire qu'il y a un grand plateau qui a un planning. Donc le plateau, là, il est vertical, mais c'est un jeu de plateau. Où les gens vont positionner des post-it, hein, pour dire, bah voilà, mon étape est de dire je vais de là à là. Et donc l'animateur va dire, bah ok, mais dans ce trajet-là, je te pose une carte piège, et cette carte piège te fait décaler ou avancer, parce que quelquefois c'est des cases qui font avancer, qui peut créer d'autres problèmes. Dans le jeu.
Donc c'est un jeu qui est à destination des entreprises, comme tu nous l'as expliqué. Et qu'est-ce que ça apporte, à ton avis, aux entreprises ?
Alors, ça apporte deux choses. Ça démontre d'abord que l'intelligence collective au service d'un projet, c'est primordial. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça démontre qu'il est indispensable d'anticiper les étapes. Et un autre point également, c'est que quand on a des étapes sur un projet, c'est important de les valider.
À quel niveau d'avancement tu es du jeu de société ? C'est encore un prototype ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà commercialisé ?
Alors c'est quelque chose qui n'est pas commercialisé, puisque c'est quelque chose que j'utilise avec un de mes collègues en formation, puisqu'on c'est un jeu qu'on anime à deux. Il n'est pas commercialisé. Il a été éprouvé, on l'a éprouvé à deux. C'est-à-dire que j'ai fait toute la trame, j'ai fait en partie toutes les cartes. Après, je l'ai essayé avec lui. Après, on l'a essayé auprès d'autres personnes pour pouvoir le mettre en place. Et donc, les gens qui l'ont pratiqué, effectivement, on arrive à un résultat qui est plutôt plus que satisfaisant. Puisque au début, on prend ça pour un jeu et puis ben, on se rend compte que les aléas de la vie, ce sont les mêmes que ce qu'on peut trouver en entreprise.
Combien de temps tu as mis à créer ce jeu-là ?
Alors, le jeu, il a été créé à peu près en un mois et demi, en y travaillant toutes les semaines un peu dessus. On l'a éprouvé une première fois, j'ai refait les cartes rôle. On l'a éprouvé une deuxième fois, on a refait les cartes planning, parce qu'on s'est aperçu que c'était mieux d'avoir des plannings perpétuels, et puis on a modifié un peu certaines dates qui étaient sur les devis, les bons de commande. Donc en un mois et demi, ça a été créé à raison de 2 heures par semaine, quoi.
Et si on veut te contacter pour jouer au jeu de société dans une entreprise, est-ce que c'est possible ?
Ah oui, il n'y a pas de souci, même si c'est pour des écoles, pour expliquer l'importance d'un planning, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Laurent Gachon, 0707 Production.
Super, et ben merci beaucoup Laurent pour cette belle présentation de jeu. Est-ce que par contre on peut repréciser quel est le nom du jeu ?
Le jeu s'appelle le jeu du planning, tout simplement. Et merci encore à vous de m'avoir invité à cette belle émission, merci.
Merci Laurent.
Merci Cériel, merci Laurent, et voici venu le temps du rire et des chants sur l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Mesdames et messieurs, le moment que je préfère, celui où l'on teste, celui où l'on joue, et je passe le micro à Gildouen qui va nous présenter le jeu pour la reine.
Let's play.
Here we go!
Donc le jeu pour la reine, c'est un jeu de narration à tour de rôle qui se joue avec des cartes. Nous avons choisi notre reine parmi un choix de 14 cartes. Donc nous avons choisi une reine aux longs cheveux noirs et qui semble avoir apprivoisé un caméléon ou un iguane.
Elle est très belle, hein ?
Ouais. Voilà, oui, une très jolie femme.
Elle a une couronne de fleurs dans les cheveux, enfin pas vraiment de plantes.
Elle est solaire.
Oui.
Voilà. Donc c'est un jeu d'Alex Robert, publié chez Bragelonne en 2020. Et donc, pour jouer, nous allons répondre à différentes questions. Pour la petite histoire, notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Elle nous a choisi, nous, et personne d'autre, pour l'escorter dans ce dangereux périple, parce qu'elle sait que nous l'aimons. Donc nous allons, pour répondre à la première question, Cyrielle va piocher une carte.
Donc je pioche une carte sur laquelle il y a deux questions. J'en choisis une ou je lis les deux?
En fait, tu lis...
Alors, que faites-vous d'habitude pour la famille royale?
Oui, c'est que les questions se complètent.
En quoi cela fait-il de vous un choix improbable pour cette expédition?
Le but étant, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais de construire un univers et de développer son personnage, quoi.
Exactement, de construire une histoire et de construire des personnages. Alors, qu'est-ce que je fais d'habitude pour la famille royale? Bah écoutez, moi je fais partie de la famille royale, je suis la petite sœur de la reine.
Voilà.
En quoi cela-t-il fait-il de vous un choix improbable pour cette expédition? Parce que ma sœur veut tellement me protéger que en soi elle est pas vraiment d'accord que je me mette en danger dans cette expédition. Voilà.
Alors, je pioche une carte. Alors, vous pensez qu'une personne de l'escorte est la favorite de la reine? Qui est-ce et qu'est-ce qui vous fait penser cela?
J'espère que c'est moi.
Alors, c'est clairement la petite sœur.
Oh.
C'est pour ça qu'elle l'a emmenée.
Ah, mais il y a peut-être un amant ou une amante dans l'expédition.
En tout cas, c'est ce qu'Antoine pense.
Pense que c'est la petite sœur. Okay. Mais bon, en tant que conseiller diplomatique, je n'ai pas forcément une vision très large des choses et de tous les potins.
Ouais, t'es un peu fermé, toi, de
base. Un peu, voilà, je regarde ce qui se passe, je vois qu'elles s'entendent bien, les deux filles, mais peut-être que...
Okay. À moi de lire une question. Quand la reine a-t-elle fait preuve de bonté sincère à votre égard pour la dernière fois? Quand la reine a-t-elle fait preuve de bonté sincère à votre égard pour la première fois? Eh bien, parce qu'elle m'a accordé de partir avec mes enfants qui n'ont absolument rien à faire dans cette expédition, mais je ne pouvais pas me passer d'eux, en fait, les laisser à mon mari.
Ma sœur est tellement extraordinaire.
Ce gros bolos. Qu'est-ce qu'il y a?
Ma sœur est très extraordinaire, quand même.
Bah, ta sœur est vraiment extraordinaire parce qu'elle m'a permis de les emporter alors qu'ils vont rien lui apporter de bien. Voilà.
Et oui, ils peuvent peut-être même nous ralentir. Mais,
ouais, tu te calmes.
Mais pour
mais,
toi,
c'est pas faux,
mais pour toi, elle a accepté. Ouais. Je trouve ça très bien.
Moi, je la kiffe.
Ouais.
Alors, une nouvelle carte. Quand avez-vous su que vous ne pardonneriez jamais à la reine et pourquoi? Alors, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir envoyé mon ex, le bouffon, au cachot pour avoir fait une mauvaise blague.
En même temps, c'était vraiment de mauvais goût.
Oui, c'est vrai, mais bon, on faillit tous à un moment donné.
Il y a des codes, il y a des codes dans la royauté, il n'avait pas à faire ça non plus.
Est-ce que c'est la prison qui vous a séparés?
On n'est pas séparés, on vit une relation à longue distance. Voilà, c'était ma réponse.
Alors, ma petite phrase. Un jour, vous avez sauvé la vie de la reine. Comment? Eh bien, justement, il y avait le fameux bouffon là qui faisait n'importe quoi, qui jouait à jongler. Voilà, il jouait à jongler avec des flammes.
Non, mais il a toujours été limite. Hein.
Voilà.
Et puis il y avait le caméléon qui était pas très loin en plus.
C'est ça, voilà. Et à un moment donné, les flammes ont enflammé des rideaux. Ça s'est très vite répandu dans la grande salle. Mais avec mon grand courage, j'ai sauté à travers les flammes, j'ai enserré la reine de mes bras.
Et calme-toi, calme-toi quand même. Il y a des codes, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Oui, alors j'ai eu quelques jours de cachot quand même aussi pour avoir trop touché la reine.
Ah oui, quand même.
Mais ensuite, elle m'a remercié de l'avoir sauvée. Et je suis avec vous dans l'escorte.
C'est là où je la reconnais.
Et donc, voilà.
Alors, je pioche une nouvelle carte. Vous avez un lien personnel avec les terres que vous traversez actuellement. Bah, évidemment, je traverse mes propres terres. Enfin, mes terres familiales, ce n'est pas les miennes, c'est celles de ma sœur, évidemment.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous donne envie de rester? Pourquoi ne le faites-vous pas? Moi, j'ai très envie de rester par loyauté avec ma famille, mais je ne le fais pas par loyauté pour la reine, parce qu'il faut sauver d'abord le pays, quoi. Mais j'y reviendrai. Comptez sur moi, je reviendrai.
Alors, je viens de piocher une carte. La reine est attaquée.
Non.
La défendez-vous.
Oh là là, donc là, ça va être la fin du jeu. On va
chacun
répondre à cette question.
Seigneur.
On laisse Antoine répondre et on fera dans l'ordre des aiguilles d'une montre, comme d'habitude.
Alors moi, j'aimerais bien la défendre, mais je suis pas très courageux en tant que conseiller diplomatique. Ouais, donc j'ai plutôt tendance à m'enfuir en courant. J'ai un peu peur, voilà.
Traître, j'étais sûre. Moi, je ne vais pas la défendre parce que je l'aime beaucoup, mais mes enfants sont avec moi. Donc je pense que c'est eux avant tout et je vais essayer de les cacher. Une fois qu'ils seront à l'abri, peut-être je reviens.
Alors moi, Romano étant toujours en prison, il me manque beaucoup. Donc j'en veux encore un peu à la reine. Donc ce que je fais en voyant l'attaque, c'est que je lui refais la même blague que Romano lui avait fait. Et je me bats en courant avec Antoine.
Est-ce que c'est une référence à Romano de Skyrock?
Ah non, Skyrock, désolé Skyrock.
Alors je pensais vraiment accompagner la reine jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment.
T'es qui toi?
Je l'ai sauvé. Moi je l'avais sauvé une fois.
Oui.
Je pensais à recommencer, mais vu la situation, je vois que tout le monde part et que la situation est en train de s'aggraver. Je vais essayer d'être bien vis-à-vis du royaume. Et en fait, je vais plutôt protéger la petite sœur de la reine.
Bien ouais.
Voilà. Pour miser mes cartes sur le futur.
Et oui. Alors moi, j'aurais bien protégé ma sœur. Là, je suis un peu embêtée parce qu'il n'y a personne qui la protège. Mais en soi, je suis la prochaine sur le rang de succession. Donc, il y a un moment donné, je vais d'abord protéger moi et mes terres.
Ce ne serait pas toi qui a organisé justement l'attaque pour récupérer la place?
Moi? Innocence incarnée. On ne saura jamais.
Je suis choquée.
Pauvre reine que nous n'avons pas protégée. Mais on a trouvé une nouvelle reine. Et on est vraiment dévoués pour
vive
notre nouvelle reine.
C'est Ariel,
la reine.
La reine est morte, vive la reine.
Retraite à 60 ans, Cyrielle.
Et même avant.
On vous a fait découvrir ce jeu, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il est facile à trouver si vous voulez participer, vivre des parties vous-même et créer vos histoires. Et je rends donc la parole à Annelise.
Merci, c'était excellent, je ne connaissais pas du tout. C'était cool, on rentre vite dans le truc. Alors, on va faire une courte pause avec une musique un peu plus dans le thème, parce qu'on culpabilise quand même un petit peu pour l'avant-dernière. Oh. Donc, non, on culpabilise pas.
Non.
On culpabilise pas, Titouan.
On assume.
On te voit. On a donc choisi la chanson de Naheulband du Donjon de Naheulbuck. Sauvons les rôlistes. Sauvons Gildouen, quoi, le seul qui en a fait parmi nous.
Merci de me sauver.
On les trouve en groupe de cinq dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées et des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout.
Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bonshommes en plastique.
On les voit sur internet, dans les GN en caleçon.
Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires clingons. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un défi, c'est une multiplie parfaite. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association.
Et tu sauveras les rôlistes. C'est galère en entreprise quand il faut communiquer. D'ailleurs c'est pas Android, c'est la machine à café. Ils s'endorment aux réunions cachés derrière un carnet. Ils sont jamais au courant quand y'a un match à la télé.
Pendant la pause déjeuner, ils refont l'éducation. Les collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la troisième édition.
Et les malus à la classe d'armure d'un perso loyal bon. Imagine le monde sans nous, un monde sans épreuves au nez, un monde sans supplément à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour dire pas mal dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes, ta gazoque et puis baston. Plus personne pour dire que ta gueule c'est magique. Fini les torturés, les bizarres à réchauffer. Et bonjour à la culture réformatée.
Parfait, parfait. Si vous qui nous écoutez, enfin j'espère que vous êtes toujours là, vous voulez vous frotter au jeu Grandeur Nature, découvrez tout de suite la chronique Quoi de neuf qui nous indiquera où et comment s'y adonner.
Quoi de neuf ?
Alors, un peu plus tôt dans l'émission, Brian nous a parlé des escape games et Antoine des murder parties. Donc si vous êtes fan de ces activités, Boule de Com organise sur le Maillet Braisé à Nantes une murder party qui s'appelle Tempête à quai. Cette animation de team building est destinée aux entreprises et donc tous les renseignements sur le site de Boule de Com et du Maillet Braisé. Et pour le grand public, mais également pour les entreprises, et toujours sur le Maillet Braisé quai de la Fosse à Nantes, la Ligue des Gentlemen a mis en place et anime deux missions d'escape game, Caméléon 1 et 2. Plonger dans l'univers de la guerre froide et identifier la taupe pour stopper la transmission de documents de la plus haute importance. Ces missions se jouent entre 3 et 6 agents. Donc tous les renseignements citent la Ligue des Gentlemen et Maillet Braisé. Voilà, c'était tout pour moi.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
Merci Gildouen. Décidément, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Je salue ta capacité de rétention de salive que je trouve dure à maîtriser.
Bien, et merci beaucoup.
Je propose tout de suite à Azilis de reprendre le flambeau pour nous donner la réponse tant attendue à l'énigme.
Je vais pas donner la réponse tout de suite.
Non, répète-nous.
Parce que je préfère répéter. Donc, c'est sur la place du marché. Ok, on visualise.
Oui.
Il y a le poissonnier blanc, le charcutier noir, le boucher roux. Et là, je ne fais pas des remarques arbitraires sur leur physique, c'est leur nom de famille. Ils sont en train de discuter et il y en a un qui dit « Mes cheveux sont noirs, les vôtres sont respectivement roux et blancs. » Et là, il y a le poissonnier blanc qui répond « Ah, c'est vrai !» Alors, de quelle couleur sont les cheveux du... attendez, quelle est la question déjà?
Qui
est en train de parler? Et de toute façon, on va falloir dire les couleurs de cheveux de tout
donc
le monde.
C'est pas le poissonnier blanc.
Ah, c'est qui?
Non, c'est pas le poissonnier.
Donc, dans ce cas, c'est le boucher qui parle.
Boucher, alors.
Oui. Le boucher parle.
Pourquoi c'est le boucher?
Ah ben, vas-y, explique qu'il doit. Oui.
Le boucher noir.
Le boucher parle parce que comme il a dit que lui, il a dit qu'il avait les cheveux noirs et que personne n'avait ses vrais cheveux.
Oui.
Et que le poissonnier lui a répondu. Ça donc le charcutier aurait les cheveux blancs et le poissonnier les cheveux roux.
J'ai rien compris.
Et qui est chauve dans l'histoire? J'ai pas compris.
ouais, c'est ça exactement. De toute façon, en effet, le poissonnier blanc, il va pas se parler à lui-même, donc on est sûr que c'est pas lui.
Oui.
Et donc, il y avait le choix entre le charcutier noir ou le boucher roux. Et bah, ça peut pas être le boucher roux puisqu'il dit qu'il a les cheveux noirs. Voilà. Je sens Adelise, là.
Non, mais en fait, c'est pas si compliqué, c'est juste...
maths et coiffure.
Ça faisait deux fois que je perdais. Il y a un moment, elle a eu pitié de moi. Merci beaucoup, Adilis.
J'avoue que j'ai un peu la rage parce que là, tu reprends la tête, je pense.
Mais oui, bah,
oui, tu m'as rendu la tête.
La tête.
Non, à un moment, j'ai repris la tête.
On était ex-aequo avec Adilis.
Ah.
Ouais, ex-aequo. Donc là, on est à 2 à 3.
Tu ne pouvais pas avoir la réponse de ta propre énigme.
Ouais.
Bon, bah,
je prendrai ma revanche pour la prochaine énigme.
Bon, en tout cas, moi, je l'avais pas vu venir. Mon travail d'animatrice est presque fini, mais je me dois de conclure avant de pouvoir tout lâcher et repenser aux moindres fautes de langage que j'ai pu faire pendant environ un bon mois d'anxiété généralisée. J'ai lu sur un site que un GN, un jeu grandeur nature, ça n'était ni du théâtre d'improvisation, ni une reconstitution historique, ni une performance artistique, ni une thérapie, encore que, mais que ça se rapproche de tout cela à la fois. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Qu'en pensez-vous?
Tu as bien raison pour cette conclusion.
Moi, j'en pense juste que ça me donne très envie de faire l'expérience et pour oui. pouvoir ouais. avoir une vraie conclusion à te donner après.
Une en expérience d'une semaine ou une petite murder party d'une soirée?
Déjà une soirée, mais peut-être un week-end. Un week-end, ça a l'air vraiment...
Oui, le format week-end prolongé, c'est pas mal.
Week-end, c'est bien.
3-4 jours, c'est bien. Dormir
sur place, tu te coupes du monde. Tout ton quotidien, en fait, adapté à ça, ça donne très envie.
Carrément.
Et c'est vrai, quand on avait fait là, des jeux de rôle entre, avec Cyrielle notamment et d'autres personnes avec qui on fait du théâtre d'impro, je m'étais fait la réflexion que c'était quand même différent parce que bah, là, on était un peu bloqués dans le théâtre d'impro. Si on n'a pas la solution à un problème, on peut juste l'inventer. Que là, on ne trouvait pas la solution et le maître du jeu nous disait
oui,
vous allez dans la mauvaise direction.
Ah oui, en cas de murder party.
C'était pas une murder party, c'était un jeu de rôle.
D'accord.
Donc du coup, le jeu de rôle, là, tu restes autour d'une table et t'as des fiches de personnages. Donc c'est un peu plus développé que pour l'arène qu'on a fait. Et là, en fait, on avait un problème. On devait trouver des trucs bizarres avec des oiseaux qui volaient étrangement.
Je sais plus, ça commence à dater un petit peu, mais on a une énigme et on n'arrive pas du tout à la conclure, en fait.
Oui, donc c'est vrai que là, en plus, tu dois finir par sortir un peu de ton personnage parce que...
Et oui, et en fait, tu dois vraiment réfléchir à une vraie solution, tandis que, comme disait Azilise, dans le théâtre d'impro, tu inventes quelque chose et ça vient et tu solutionnes.
Oui.
Ici, la solution, c'est à toi de la trouver comme dans un escape game.
Mais c'est dans un jeu de rôle grandeur nature, j'ai l'impression que ça te donne quand même la liberté de...
Il peut y avoir plusieurs solutions à un moment donné, en fait, selon les chemins que tu vas prendre. Même si les organisateurs ont pu prévoir des événements, il y a quand même ton chemin qui fait que l'événement se passe ou pas.
Et du coup, Gildouane, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais toi, tu avais payé pour...
Oui, j'avais payé, mais ça devait être dans l'ordre de prix que tu as indiqué, entre 80 et 100 euros.
Ouais, d'accord.
C'était peut-être un peu plus cher la deuxième année, parce que là, ils avaient vraiment loué un site avec un fort dans France de l'Est. Mais
surtout que dans un GN, de ce que je comprends, chaque personnage a une histoire à résoudre.
C'est ça, on crée notre personnage avant.
Oui, et c'est vrai que, par contre, le déguisement, etc., reste à la charge... À la charge du joueur.
De chaque joueur, et il y a des règles de sécurité sur nos armes à respecter.
Oh là là.
Ah oui, c'est vrai, latex ou mousse.
Oui, bah c'est ça, voilà. Faut pas blesser les gens en vrai.
Oui, quand même.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour cette émission. Merci à tous.
Merci à toi.
On se retrouve. J'ai dit tout à l'heure que c'était notre quatrième émission, mais c'est parce qu'en fait, il y en a une où j'étais pas là. Non. Du coup, je pense que sans moi, c'est pas.
Non, c'était différent. On s'en est rendu compte.
D'accord. Bon, ok. Je Donc, du coup, on se retrouve le mois prochain, deuxième dimanche du mois, de 13 à 14 heures, pour la sixième émission. Merci et bonne journée, bon dimanche.
Bonne journée, Titouan. Bonne journée, tout le monde.
Game over.